Culture sans frontières, Anna Kubishta.
Bonjour, depuis le 18 septembre, la galerie genevoise au sympathique nom Une sardine collée au mur expose Anna Zemanková. Alors, qui est cette artiste tchèque? Tout simplement, une grand-mère qui a commencé à créer tard dans sa vie, au début des années 60. Une figure importante de l'art brut, comme l'explique Flora Bern, la galeriste genevoise. Anna Zemanková aurait eu 100 ans cette année. En plus de l'exposition en Suisse, son œuvre est présentée dans deux autres expositions, l'une à New York, l'autre à Paris, rien que ça. Dans cette émission, je vous propose de mieux découvrir cet artiste autodidacte hors norme par les yeux de Flora Bern, mais aussi par les yeux de sa petite fille, Terezie Zemanková, qui gère son patrimoine artistique. On l'écoute en ce début d'émission avant d'élargir les perspectives avec Flora Bern sur l'art brut.
Ma grand-mère, elle était une femme de foyer assez ordinaire. Elle restait toute sa vie à la maison avec ses enfants. Elle s'occupait de sa famille. Mais quand elle avait à peu près 50 ans, à l'étape de sa ménopause, c'était exactement le temps quand ses fils sont grandis. Ils n'avaient plus besoin de sa occupation. Elle a tombé dans les états de, on peut dire, de frustration. C'était assez problématique à vivre. Donc mon papa, qui était sculpteur, et mon oncle, qui est médecin, sont décidés qu'il faut trouver un moyen. Comment lui trouver finalement une occupation? Ils ont, par hasard, ils ont trouvé dans la CAF le portfolio avec cette peinture de l'époque quand elle avait 18 ans. C'était les peintures de paysages plutôt médiocres, mais quand même il y avait un sens de couleur et de tout ça. Donc ils ont pressé leur mère de recommencer la création plastique. Elle a commencé par les dessins des fleurs inspirées par la nature, par la réalité, mais elle n'a jamais copié vraiment la réalité. Elle a toujours travaillé de ses mémoires, avec ses souvenirs. Mais très bientôt, la réalité lui ne suffisait pas. Elle a commencé à se nourrir de sa imagination qui était énormément large. Elle a commencé à créer chaque matin, à peu près vers 4 ou 5 heures du matin, quand la famille était encore dormait encore. Je n'étais jamais le témoin de cet acte de création, mais j'imagine que c'était un état entre la rêve et l'état de réveil qui n'était pas vraiment très conscient.
Est-ce que c'est un peu une manière de faire qui pourrait rappeler les techniques des surréalistes, par exemple, qui pouvaient se mettre volontairement dans des états de transe, par exemple?
Je crois que plutôt que les surréalistes, ça peut évoquer la technique des médias spirites qui travaillent dans les états inconscients. Parce que les surréalistes, ils se sont mis dans cet état-là volontairement, où il y avait une intention. Chez ma grand-mère, comme chez les médias spirites, il n'y avait pas cette intention-là. C'était tout à fait naturel. Parce que dans cet état-là, entre le rêve et l'état d'éveil, toujours le matin, elle a créé d'abord les grandes formes des bases de ses tableaux, de ses dessins. Et après, pendant les jours, elle a ajouté les détails.
Donc ça veut dire qu'en gros, elle posait les bases de son tableau pendant la nuit dans cet état, j'allais dire, de transe un peu, ou en tout cas entre le rêve et l'état d'éveil, et que dans la journée, dans un état d'éveil complet, elle complétait ce tableau.
Exactement, oui. C'était comme ça. J'ai un peu hésité si on peut parler de transe, parce que c'était pas vraiment le transe, je crois. C'était plutôt l'état de la rêverie, l'état qui n'était pas complètement conscient. Elle a écouté beaucoup de la musique. Et on peut dire que c'est vraiment que le mouvement de sa main était très influencé par la musique. Elle a raconté une histoire d'un monsieur qui était compositeur et qu'elle est venue la voir à l'époque quand elle a exposé ses œuvres chez elle, à la maison. Et cet monsieur, il est venu voir ses œuvres, il regardait un tableau et il disait: mais madame, écoutez, j'ai l'impression d'entendre les orques. Et ma grand-mère, elle s'est mise à pleurer parce que c'était exactement pendant... Elle a créé ce tableau en écoutant les orques. Mais, donc, elle était très émue que ce compositeur était capable de reconnaître la musique qui était en arrière de son œuvre.
Votre grand-mère a créé sous le communisme. J'ai un peu du mal à imaginer comment est-ce que ça a pu être reçu. Est-ce que les autorités savaient qu'elle créait? On sait que, bon, je sais pas, le communisme était plutôt formaliste et pas vraiment ouvert, j'allais dire, à la création originale. Comment est-ce que ça a été reçu dans la mesure où ça a été connu du public?
C'était pas connu du tout. Pendant sa vie, elle a fait quelques petites expositions chez elle. Elle a eu une exposition qui était au théâtre de Nasa Bradley à Prague, qui était organisée par mon papa. C'était presque tout. Mais c'est vrai que dans l'époque du communisme, elle était incorporée entre l'art naïf, ce qui est beaucoup différent que l'art brut, parce que les artistes naïfs essaient de représenter la réalité comme elle est, ou elle essaie de peindre comme les artistes académiques. Elles sont pas capables de le faire, et c'est ce que fait la beauté de leur ouvrage. Mais les artistes bruts, ils se nourrissent par leur imagination, par ce qui est, par leur inconscient. Ça veut dire qu'ils ne représentent pas presque jamais la réalité. Dans les années 70, je crois, ma grand-mère était présentée dans quelques expositions d'art naïf, ce qui était accepté par les autorités politiques comme la création du peuple. Il faut dire qu'Anna Zemankova, elle est beaucoup plus connue à l'étranger qu'en République tchèque.
C'était Terezia Zemankova, la petite fille d'Anna Zemankova. Tout de suite, je vous propose d'écouter le point de vue de la galeriste genevoise Flora Bern sur l'œuvre de l'artiste tchèque et sur l'art brut en général.
En fait, ce qui est très étonnant déjà chez Anna, donc ça a été quand même sa grande productivité pendant les 30 et quelques années où elle a dessiné. Elle s'est beaucoup attachée, elle s'est beaucoup inspirée des dessins, des motifs folkloriques tchèques, hein, qui servaient notamment à la couture des dames à l'époque, dans les années 60-70. Elle s'est attachée à dépeindre une végétation luxuriante, flamboyante, avec des accès très très mystérieux, puisqu'évidemment c'est une flore, une végétation qui n'existe pas, qu'elle a vraiment stylisée d'après son imaginaire, et c'est quelque chose de très prenant, je dirais, parce que les images sont à la fois délicates et très fortes, très puissantes. Ces images sont toujours composées par de subtils mélanges entre des parties très très fines, très détaillées, très délicates, qui sont travaillées vraiment avec beaucoup de minutie, et des éléments de composition très forts. Donc il y a un peu comme ça une ambiguïté, je dirais presque masculin-féminin dans son dessin, avec une utilisation des couleurs qui est quand même absolument magnifique, parce que pour quelqu'un qui était comme elle autodidacte, elle a un vrai talent de coloriste, et une composition dans la page, sur la feuille de dessin, très souvent en déséquilibre, qui occupe tout l'espace en fait du dessin. Et moi, ayant vu énormément de sa production dans la famille Zemankova, j'ai été frappée du fait que on voit très très rarement, pour ainsi dire jamais, de double. C'est-à-dire chaque image est très différente l'une de l'autre, ce qui amène vraiment à une espèce de jungle, je dirais, complètement mystérieuse. À voir, c'est assez beau. Il y a quelques-unes de ses œuvres qui sont un peu plus inspirées des motifs, je dirais, art déco, donc des années 20-30, hein, qui sont un peu plus ornementaux comme ça. Mais sinon, c'est vrai que le gros de sa production, c'est quand même une végétation très très stylisée et très luxuriante. Hein.
Un petit peu pour resituer, quelle est la place un peu de l'art brut dans l'art ou l'histoire de l'art en général, si vous pouvez un petit peu replacer dans le contexte.
Alors en fait, le terme art brut, la terminologie art brut, a été amenée, on peut dire un peu comme ça, ou découverte, en tout cas posée par Jean Dubuffet dans les années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire dans les années 1945, parce que lui-même était parti à la découverte de créateurs et d'artistes un petit peu en marge. Je crois même qu'il avait découvert chez les malades mentaux cette production un peu hors norme grâce à une amitié qu'il avait, en tout cas une relation qu'il avait avec Antonin Artaud, qui à l'époque était dans une institution psychiatrique du sud de la France. Et c'est comme ça qu'il a été amené en fait à chercher, à découvrir, à parcourir un petit peu l'Europe pour mettre au jour et collectionner lui-même personnellement les œuvres de ces artistes en marge. Donc après, c'est vrai que dans ses écrits, il a beaucoup encouragé la culture hors norme, la culture spontanée, comme ça, des créateurs, et il a toujours mis l'accent en fait sur ce côté très non académique surtout, spontané, secret, très personnel, voire obsessionnel de ces créateurs. Donc en fait, l'art brut, ce n'est pas un mouvement, puisqu'en fait, les créateurs que l'on classe dans le domaine de l'art brut, ce sont tous un petit peu des épiphénomènes en eux-mêmes. Il n'y a pas de caractéristiques propres, graphiques, esthétiques attachées à l'art brut, si ce n'est une inventivité et une très personnelle et complètement débridée, je dirais, et une rupture avec l'académisme, parce que donc tous ces créateurs sont des autodidactes et n'ont pas de cursus académique classique.
Le processus de création, parce que vous parliez justement d'Antoine Artaud, on parle également parfois justement de malades mentaux, de schizophrènes, et c'est leur création qui est considérée comme de l'art brut. Ça veut dire que une déficience, par exemple, mentale ou quelque chose, est aussi un critère ou j'ai...
Non, absolument pas, parce que dans l'art brut, en fait, sont classés donc des créateurs marginaux, mais pas uniquement d'origine psychiatrique, par exemple. On a aussi beaucoup de créateurs qui sont des personnes âgées, telles Anna Zemankova, par exemple, qui mènent une vie tout à fait ordinaire et simple, mais qui, à l'orée de leur retraite, enfin de leur vie active, se libèrent peut-être aussi des contraintes du qu'en dira-t-on, cherche peut-être l'épanouissement ou à exprimer quelque chose qu'elles avaient en elles et qu'elles ne peuvent plus garder, disons. Donc en fait, il y a une espèce d'affranchissement des règles, je dirais un peu sociales, comme ça, pour une véritable expression personnelle. Et c'est pas obligatoirement, effectivement, des personnes en incapacité psychiatrique.
C'est donc avec Flora Berne, la galeriste d'Une sardine collée au mur, une galerie qui est installée à Genève et qui expose Anna Zemankova jusqu'au 25 octobre, que s'achève cette émission. Je vous retrouve bien évidemment la semaine prochaine, même heure, même fréquence. En attendant, vous pouvez retrouver cette émission et les archives sur le www.radio.cz. Merci de votre fidélité. Ahoy.